On confond souvent l'autorité spirituelle puis la simple occupation d'un poste d'autorité dans l'Église. Contrairement à ce qu'on pense d'habitude, le poste qu'un homme occupe dans la chair ne lui confère pas automatiquement d'autorité spirituelle. Le pasteur est premièrement là pour être un modèle, pas un chef. L'Écriture est claire, Jésus-Christ est le seul chef de son Église. Certaines dénominations évangéliques, là où je parle au sens large, ont également embrassé une forme de gouvernement très semblable à celui du clergé catholique, puis qu'on appelle l'épiscopat, dans lequel il est facile de voir que ça fonctionne de façon hiérarchique, même si ce n'est pas ouvertement avoué. Donc. Même si on lui donne un autre nom, quelquefois, là, on parle de démocratie, mais en fait, c'est de l'épiscopat à la base. Sachant que nul ne peut servir deux maîtres, l'allégeance du pasteur devrait aller, de préférence aux frères et sœurs dont il dit être le serviteur, au lieu de chercher à plaire à ses supérieurs hiérarchiques quand il y a des intérêts opposés. Comprenez-vous ce que je veux dire? Charles Gore, qui a vécu de 1853 à 1932, qui c'était un leader anglo-catholique, disait que les pasteurs étaient les successeurs du Christ lui-même. Bon, dans son livre « The Church and the Ministry », il a écrit en faveur de l'épiscopat les choses suivantes. Chaque église, avec ses évêques et ses pasteurs, forme une petite théocratie dans laquelle les évêques représentent l'autorité de Dieu et sont une incarnation de la présence divine. Bon, ça va loin, ça. Plus loin, il dit encore, le principe de la succession apostolique ne peut pas être abandonné sans être considéré comme une trahison au Christ. Alors, il est très extrême dans sa position. À mes yeux, le mettre en place des hommes que Dieu n'a pas voulu, puis leur accorder de l'honneur puis de la soumission à la place des hommes que Dieu a oint du Saint-Esprit, c'est plutôt ça qui est une trahison au Christ, il me semble. Bon, ce type-là enseignait, ou plutôt essayait d'enseigner à l'Église à peu près la même chose que ce que la papauté enseigne encore aujourd'hui, par exemple. Au Concile Vatican II, le pape a dit « Cette infaillibilité, le pontife romain la possède en vertu de son office. » On voit que dans l'Église catholique, c'est très clair que l'autorité, c'est le poste, c'est l'autorité. Pour eux autres, c'est tout. La place que tu occupes, c'est ça qui te confère de l'autorité, alors que dans le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Un certain M. Schnell, un ancien témoin de Jéhovah, a expliqué que l'organisation était basée sur le principe d'une obéissance mécanique. Encore une fois, on voit que c'est pas seulement réservé au catholicisme d'avoir une fausse interprétation de l'autorité. On voit ça à peu près partout. Non, l'épiscopat ou les systèmes hiérarchiques, c'est simplement de l'abus de confiance. L'épiscopat, c'est un gouvernement d'hommes qui prend la place de l'autorité spirituelle du bienfaisant leadership de Dieu. Les deux choses qui ont détruit l'Église primitive, puis qui ont continué à détruire les dénominations les unes après les autres à travers l'histoire, c'est premièrement l'établissement d'un gouvernement hiérarchique dans le leadership. Deuxièmement, ce sont les nombreux croyants qui ont continué à se soumettre à ça sans dire un mot, puis qui ont ainsi permis à la situation de se perpétuer, puis d'empirer même avec le temps. Alors, ces gens-là ne sont pas seulement coupables d'abuser de leur poste, mais je pense que l'Église est un peu aussi coupable d'avoir enduré ça. Dallas Willard a écrit « L'Esprit de Jésus ne connaît d'autre soumission en dehors de la soumission mutuelle de tous et envers tous. » Éphésiens 5, 21, Philippiens 2, 3. « Être soumis, c'est accepter l'aide de ceux qui ont été reconnus capables de la donner, dû à leur profonde expérience et à leur ressemblance avec Christ. » Alors, cet homme-là avait une vision pas mal claire des choses. Jésus a dit « Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères » en Matthieu 23, 8. « Vous êtes tous frères », ça signifie « vous êtes tous égaux ». Dans une famille, les parents ont peut-être autorité sur leur enfant, comme Christ en a sur l'Église, par exemple, mais les enfants n'ont pas d'autorité les uns sur les autres. Ils sont égaux. Bref, toute revendication d'autorité est contraire à l'Esprit de Jésus. La réclamation d'autorité est d'ailleurs la marque des faux prophètes dans la Bible. En 2 Corinthiens 6, 3-4, Paul dit « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, etc. J'aimerais attirer votre attention sur la phrase « Nous nous rendons à tous égards recommandables ». Maintenant, si l'Écriture dit ça, c'est justement parce qu'il y a des hommes qui occupent des ministères dans l'Église, puis qui sont blâmables. Dieu ne vindique pas automatiquement nos actions, nos paroles ou nos décisions, uniquement sous prétexte qu'on occupe un poste d'autorité dans une Église. Le pasteur ne doit pas s'attendre à ce que Dieu le recommande sur cette base-là. Il doit au contraire travailler à se rendre lui-même recommandable, comme le dit Paul, aux yeux de Dieu puis de l'Église, par la qualité des vertus qui sont décrites dans ce passage-là, par exemple. En Marc 6,3, ça dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Bon, ce passage-là, personnellement, m'a laissé perplexe pendant pas mal longtemps. Comment un homme parfait pouvait être encore une occasion de chute pour quelques-uns? Si Jésus a été une occasion de chute pour eux autres, c'est parce que ces gens-là avaient une mauvaise conception de ce qu'était un homme de Dieu. Si, comme les pharisiens, Jésus avait été instruit au pied des docteurs de la loi, d'un docteur célèbre, par exemple, ou d'une grande école depuis sa jeunesse, comme les autres rabbins juifs, au lieu de travailler comme charpentier, puis s'il avait été habillé comme avec de beaux habits, avec des larges franges comme eux autres, il aurait attiré le respect. Mais son humble façon de vivre, puis de s'instruire, était en complet désaccord avec l'image que les gens s'étaient fait des hommes de Dieu. Il n'y avait pas l'habit qui allait avec le moine, comme on dit. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on est dans le Seigneur. Considérons le texte suivant. Il, en parlant de Pilate, savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré, Marc 15-10. Alors Pilate avait vu ça tout de suite. C'était très évident que les chefs religieux avaient rivalisé avec Jésus depuis le début, parce que son ministère constituait une menace pour leur autorité. Ils l'ont livré à la mort, afin de pouvoir conserver cette autorité-là sur le peuple, qui avait perdu en fait un peu à cause du ministère de Jésus, puis de son enseignement. Alors l'envie, c'est quelque chose qui c'est un poison dans l'Église. Toute cette querelle-là d'autorité là, cache le péché d'envie. Allons pas croire que le fait d'occuper la chair dans une Église nous donne le privilège de voir Dieu approuver toutes les directions qu'on va décider de donner. En Matthieu 16,19, Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On connaît tous le passage. Maintenant, Jésus n'était pas en train de dire à Pierre que Dieu allait endosser puis vindiquer tout ce qu'il déciderait de faire plus tard dans l'Église. C'est justement comme ça l'Église catholique interprète ce verset-là. C'est en partie pour ça que la grande réforme a eu lieu au 16e siècle aussi. En fait, Jésus a simplement dit à Pierre que Dieu allait l'employer un jour pour donner des directions importantes à l'Église. Jésus était en train de prophétiser à Pierre qu'il aurait plus tard une grande autorité spirituelle, pas à cause du poste qu'il occuperait, mais parce que Dieu l'utiliserait plus que les autres, c'est tout. Les actes des apôtres confirment certaines grandes décisions qui ont été prises par Pierre en ce qui concerne la direction de l'Église, puis aussi certaines de ses paroles qui furent puissantes. En acte 1, on se souvient que c'est Pierre qui a reçu des directions dans son cœur de la part de Dieu pour remplacer Judas. Alors, c'est une décision qui est très importante. En acte 2, c'est Pierre qui a oint du Saint-Esprit, qui a été oint du Saint-Esprit, puis qui a prêché le fameux sermon au jour de la Pentecôte, puis qui a emmené 3000 hommes au Seigneur. Ça aussi, c'est fabuleux. En acte 5, Dieu s'est servi de Pierre pour juger Ananias et Saphira, qui sont tombés morts à sa parole devant toute l'assemblée. C'était un grand miracle. En acte 10, c'est encore Pierre à qui Dieu a révélé que la voie du salut était aussi ouverte aux nations. C'est une grande décision, aussi une grande étape dans la vie de l'Église. Maintenant, attention, là, Pierre n'a pas tout fait ça de son propre chef. C'est pas Dieu qui suivait Pierre en arrière de lui puis qui bénissait les décisions qu'il prenait. C'est exactement le contraire. C'est Pierre qui suivait Dieu puis qui obéissait à ce que l'Esprit lui montrait. C'est ça l'autorité spirituelle, les amis. C'est pas autre chose. Alors, le poste ne fait pas l'autorité. En Proverbes 4, 1 et 2, Salomon a dit, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. ne rejetez pas mon enseignement. En 1 Pierre 5,5, quand Pierre dit « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens », ben c'était dans le même sens que Salomon a demandé à ses fils d'être attentifs à ses paroles, c'est-à-dire dans le but de leur transmettre de la connaissance utile, puis de leur donner de bons conseils, susceptibles de les faire avancer dans la piété. Les jeunes croyants doivent être soumis aux anciens croyants dans le but d'apprendre quelque chose. La soumission n'est pas une question d'ordre ou d'obligation. Plusieurs ont définitivement pas compris l'esprit de la soumission dont parle la Bible, puis ils essaient de faire observer la soumission d'une façon tout à fait légaliste. Il n'y a rien dans la Bible qui oblige le croyant à être soumis aux anciens. Seulement, si on adopte un esprit enseignable envers eux autres, on risque d'être enrichi spirituellement, puis le contraire est aussi vrai. On doit être soumis aux anciens parce qu'ils peuvent nous enseigner des choses utiles, puis nous aider à progresser spirituellement. Voilà le vrai sens de soumission. Alors, il faut comprendre l'esprit de la soumission. Quand la Bible dit aux chrétiens d'être soumis à leur conducteur, c'est évident que c'est pour cette raison-là, c'est pas pour autre chose. C'est pas une question d'obligation de soumettre aveuglément à n'importe qui dit être le chef en avant. Là. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, a dit Pierre. Un jour, j'ai vécu une petite expérience qui m'a aidé beaucoup à comprendre encore mieux ce texte-là. Bon, il y avait un frère dans le Seigneur qui avait entrepris de se construire lui-même un hangar pour les besoins de son commerce. Comme il ne connaissait pas grand-chose en construction, ben, je suis allé l'aider avec le peu de connaissances que j'avais. Puis l'oncle de sa femme s'est joint à nous autres pour nous apporter son aide aussi. Ben, lui, c'était un homme d'une 60aine d'années, puis il en avait d'expérience. C'était pas la première fois qu'il bâtissait quelque chose, ça paraissait. Par la force des choses, ça n'a pas pris de temps qu'il a été obligé de prendre les opérations en charge parce qu'on ne comprenait pas assez vite, puis on ne savait pas tellement bien travailler côté de lui. Maintenant, le chef de nous trois, c'est évident que c'était le frère à qui appartenait le futur hangar, hein? Mais le bon sens nous enseignait qu'on devait bien plus être soumis au vieux monon qui était expérimenté, par exemple. Bon, comme j'étais en admiration là, devant sa façon de travailler, ben, ce texte-là de Pierre m'est revenu à l'esprit. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Là, j'ai mieux compris le sens, puis surtout le pourquoi de la soumission. Dans l'Église, c'est la sainteté puis la maturité chrétienne qui détermine l'autorité spirituelle de quelqu'un, puis qui détermine aussi la mesure de soumission qu'on doit à cette personne-là. C'est pas pour des questions d'ordre, comme je me suis déjà fait dire là, par quelqu'un. Écoutez, on n'est pas dans l'armée, là. La soumission, c'est une simple question de bon sens, pas d'obligation. Un jour, je demande à un pasteur d'une certaine dénomination qui fonctionnait dans une structure plus ou moins hiérarchique comme ça, là, j'ai posé la question suivante. Si Dieu te dit quelque chose dans ton cœur, puis que ton supérieur te demande autre chose, à qui tu vas choisir d'obéir? Sans aucune hésitation, il m'a répondu qu'il choisirait d'obéir à son supérieur hiérarchique. J'étais jeune dans le Seigneur, puis je me souviens, sa réponse m'avait fait lever les cheveux sur la tête. Je me disais, comment ça se fait qu'un homme choisisse d'obéir à un autre homme, au lieu de Dieu? Écoutez bien, lorsqu'à l'intérieur d'un mouvement évangélique ou d'une église locale, l'autorité, entre guillemets, est basée seulement sur une simple occupation du poste, il y a de quoi s'interroger sur le sérieux qu'accorde ce mouvement-là aux véritables valeurs spirituelles. Un mouvement qui a pour base un gouvernement de forme plus ou moins hiérarchique comme ça, par exemple, est un mouvement qui n'honore pas l'autorité de Jésus-Christ réellement, ni celle du Saint-Esprit dans l'Église. C'est bien beau de parler du Saint-Esprit, mais ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'on reconnaisse son droit au leadership à cet esprit-là dans l'Église puis dans le cœur des croyants. Aussitôt qu'on a une structure humaine, hiérarchique, les amis, dans l'organisation d'un leadership, le Saint-Esprit s'en trouve limité quelque part. Puis c'est toute la qualité de vie spirituelle de l'Église qui en souffre, qu'on le réalise ou non. L'Église en souffre de ça quelque part. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe 16:31. Bon, un jeune homme de 24 ans qui se ferait teindre les cheveux en blanc mériterait pas l'honneur d'un ancien. Dans l'Église, c'est la même chose. Plus un homme est sage, plus il ressemble à Jésus-Christ, plus il a de l'autorité. Qui occupe un poste ou qui n'en occupe pas, ça n'a pas d'espèce d'importance. L'autorité spirituelle peut être que le fruit d'une évolution naturelle, c'est tout, ça ne peut pas être autre chose. Ça s'acquiert juste par l'expérience puis par un long apprentissage. Ce qui manque ne peut être compté, nous dit Ecclésiaste 1:15. Dieu ne fait pas crédit à personne en matière d'autorité. Si tu as juste 7 ou 8 ans dans le Seigneur, tu ne peux pas demander aux gens d'être soumis à toi comme si tu avais 20, 25 ans puis 30 ans de vie chrétienne derrière toi. Quand Pierre parle d'anciens, il parle d'ancienneté en réalité. C'est pas juste un titre, cela. Une étiquette qu'on colle sur quelqu'un puis qui lui donne de l'autorité. Le mot ancien, on le vide de son sens, je pense, aujourd'hui. Non, donc, alors, le mot ancien parle d'ancienneté. C'est pas un titre honorifique. Évidemment, il parle pas de pauvres vieux croyants qui se sont refroidis au cours des années puis qui ont malheureusement perdu leur premier amour. Dieu sait combien il y a de croyants âgés qui sont là depuis 20, 25 ans puis qui sont en mauvaise santé spirituellement. Il est évident que ces personnes-là sont pas ou ne sont plus aptes à remplir un ministère de pasteur. Moi, je dis que 10 années de vie chrétienne passées dans la prière, dans l'obéissance puis l'amour de Dieu, donne sûrement plus d'autorité à un jeune homme que 30 années vécues dans le relâchement, c'est sûr. Bon, c'est pour ça que je pense que plusieurs jeunes pasteurs font un meilleur travail que leur aîné dans la foi, puis ils méritent d'occuper le ministère de pasteur dans l'Église. Mais règle générale, l'autorité est dans l'ancienneté puis la maturité, en d'autres mots. Les études théologiques peuvent contribuer à la maturité spirituelle, ça peut aider à la longue, là, mais elles ne la remplacent pas, par exemple. Il y en a qui sortent de l'école biblique après 3 ans et demi, puis ils ne seront plus enseignables du tout. Tu ne peux rien leur enseigner, tu ne peux rien leur montrer. Ils savent tout ce qu'ils ont à savoir, puis c'est ridicule de voir l'orgueil qui peut se dégager à cause juste d'un petit bout de papier. La maturité vient uniquement avec le temps puis la piété. C'est ça l'autorité. Elle ne dépend pas de l'accumulation de connaissances intellectuelles. Tu peux mémoriser une concordance, tu peux mémoriser un dictionnaire biblique, puis tu peux mémoriser la Bible par cœur si tu veux. Tu n'auras pas plus d'autorité spirituelle, puis tu ne seras pas plus avancé après qu'avant. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas de raccourci. Celui qui aspire à connaître le Seigneur va devoir user ses genoux, mettre son nez dans sa Bible, puis réfléchir sur les choses qu'il a lues. Puis trouver des applications pratiques, chercher à équilibrer la connaissance qu'il a. Dans le monde, l'autorité, tu peux avoir ça instantanément. À la seconde où tu viens à occuper un poste de leadership quelque part, tu as de l'autorité. Mais dans l'Église, l'autorité spirituelle, c'est un fruit qui pousse lentement. L'autorité spirituelle est le fruit d'une longue marche avec le Seigneur. Un jeune chrétien qui a juste reçu une formation théologique ne pourra jamais rivaliser de valeur avec un ancien croyant qui a de la maturité et de l'expérience dans le Seigneur. Avoir une bonne théologie, c'est sûr que c'est une bonne chose. Mais la théologie procure malheureusement pas la maturité. La compréhension intellectuelle d'une vérité n'en donne pas l'expérience pour autant. C'est pour ça que Paul a dit que la connaissance enfle. C'est-à-dire qu'elle donne une fausse impression de croissance alors qu'il n'y en a pas eu en réalité. Il y a une énorme différence entre comprendre une chose avec sa tête puis en avoir reçu une révélation intérieure, puis l'avoir expérimenté dans ta vie. Puis surtout être capable de la communiquer aux autres, ce qui exige un don. Des hommes très instruits en théologie peuvent être encore tout à fait charnels. On a juste à se rappeler l'histoire de Jean Calvin, qui était un des plus grands théologiens du temps de la Réforme, puis mais il a fait brûler Michel Servet au bûcher. Michel, c'est pas une affaire que l'histoire se vende bien gros. Quand on lit un manuel d'histoire de l'Église, on passe vite sur ce petit anicoche-là. Mais je me demande si Dieu a le goût de passer aussi vite, lui. Michel Servet est un médecin espagnol qui s'intéressait à la théologie. Bon, il a fait une erreur dans sa vie, c'est d'avoir été écrire un livre qui contredisait la doctrine de la Trinité de Calvin. Apparemment, Calvin a décidé qu'il n'avait plus le droit de vivre à cause de ça. À ma connaissance, il n'y a rien qui laisse croire que Servet était un antichrist ou un méchant homme. Il s'est juste mêlé de théologie, puis comme il n'était pas sauvé, il s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas, c'est tout. Puis il a fait erreur. Je veux dire que même si cet homme-là avait été méchant, là, ça aurait toujours pas été une raison pour le traiter comme ça, quand même. Il n'y a rien dans la Bible qui justifie cette action-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est écrit dans toutes les Bibles, même à cette époque-là. Étant l'un des plus grands théologiens qui a jamais vécu, il aurait dû savoir ça mieux que personne, que ça se faisait pas, oui. Mais même un grand théologien peut être encore une carnalité assez surprenante, les amis. Alors, ça, l'autorité spirituelle vient pas de la connaissance. Je m'excuse, mais c'est ça qu'on a cru longtemps. Puis c'est ça qu'on croit encore aujourd'hui. On élève les plus instruits. Je me demande si on fait bien de faire ça. La morale de mon histoire, c'est que nos papiers prouvent peut-être aux hommes qu'on est pasteur, mais ils ne prouvent rien à Dieu. Dans le royaume de Dieu, du papier, ça ne vaut pas grand-chose, ça vaut juste du papier. Les gens qui ressemblent à Jésus-Christ sont les seuls qui méritent vraiment d'être honorés dans l'Église, qui mériteraient vraiment. C'est pour ça que Paul a dit aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul n'a pas parlé de soumission aux gens en poste, mais de soumission au modèle spirituel. Ce qui donne de l'autorité à un homme dans l'Église, c'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit dans sa vie, sa sagesse, sa connaissance de Dieu et de ses voies, son expérience et sa maturité en Christ. Connaître le Seigneur au point d'inspirer le respect des gens, c'est ça l'autorité spirituelle. Quand on inspire le respect, on n'a pas besoin de commander la soumission. Quand l'autorité spirituelle émane de nous autres naturellement, on n'a pas besoin de prêcher ou de défendre notre droit à l'autorité dans l'Église. Les gens nous suivent naturellement. Alors, les gens qui se prêchent eux-mêmes, qui prêchent la soumission, n'ont pas une bonne autorité, ou n'en ont pas beaucoup, ou n'en ont pas du tout. C'est ça la vérité. En 2 Corinthiens 13, 15, Paul a dit, « Nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous. » Bon, je répète ça parce que c'est pas facile à saisir du premier coup ce que Paul veut dire ici. Nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous. Les gens reconnaissaient une certaine autorité spirituelle à Paul, mais on peut voir à travers ce texte-là qu'il y avait quand même une certaine limite invisible là, que Paul pourrait franchir uniquement si la confiance des gens le lui permettait. Cette condition-là est clairement stipulée dans la parole « si votre foi augmente ». La foi fait ici référence à la confiance que les gens avaient à son égard. Autrement dit, Paul ne forçait pas directement ou indirectement les croyants soumettre à son ministère, mais il acceptait les limites de la confiance que les croyants lui portaient. C'est important, ça. Lorsque l'esprit d'un ministère repose vraiment sur quelqu'un, il possède une sorte de magnétisme spirituel naturel qui inspire la confiance aux gens. Les brebis entendent la voix du berger derrière la sienne, puis elles le suivent naturellement. La fausse autorité tend plutôt à pousser la soumission en manipulant l'Église de toutes sortes de façons, soit en culpabilisant les croyants, puis en utilisant des textes bibliques interprétés de façon rigide, de façon à les obliger à lui être soumis d'une façon ou d'une autre, sans leur donner d'alternative. En Matthieu 4, 25, ça dit de Jésus, une grande foule le suivit. Bon, les gens suivaient Jésus de façon tellement naturelle, c'est vraiment beau de voir ça dans les évangiles. En tant que leader, on aimerait bien que ce soit comme ça pour chacun de nous autres, hein? Mais on va devoir accepter humblement les limites de la confiance que les gens ont jugé qu'on méritait, c'est tout. Même si Dieu a donné une certaine autorité spirituelle à un homme, ben ce leader-là ne doit pas chercher à exercer son ministère contre la volonté des gens. Même si notre autorité spirituelle est authentique, on n'a toujours pas le droit devant Dieu de nous imposer à l'Église. C'est pour ça que tout au long de sa deuxième épître aux Corinthiens, puis spécialement dans les trois premiers chapitres, les trois derniers, je m'excuse, Paul, au lieu d'imposer son autorité, il s'efforce plutôt de reconquérir la confiance de ceux qui ont douté de lui, soit en leur donnant les preuves de son amour pour eux, puis des preuves de l'authenticité de son apostolat. Mais en tant que leader, essayons pas de forcer les choses, puis d'aller plus loin que nous le permet la confiance des gens, encore une fois. Au lieu d'essayer de faire augmenter la soumission dans l'Église, essayons de faire grandir notre autorité spirituelle à la place. En 1 Timothée, chapitre 3, Paul a donné les prérequis du ministère de pasteur. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc., etc. Si vous êtes pasteur, j'ai rien qu'une chose à vous dire. Laissez pas l'ennemi vous séduire, puis vous faire croire que ces choses-là sont juste des idéaux, qui sont pas obligatoires. Les mots « il faut » qui reviennent tout au long de ce passage-là, à plusieurs reprises, laisse absolument aucun doute. Les qualités décrites ici sont essentielles à la charge d'évêque. Évidemment, des pasteurs qui pêchent jamais contre ces critères-là, ça n'existe pas. Mais ils ne les transgresseront pas tous les jours, par exemple. Il faut que, de façon générale, le prétendant à la charge d'évêque ait acquis toutes les qualités spirituelles décrites dans ce passage-là, avant de pouvoir exercer son ministère. Un bon pasteur va admettre ses erreurs et ses manquements. Il ne cherchera pas à les dissimuler ou encore moins à les justifier. Pour faire croire aux gens qu'il remplit les prérequis alors qu'il ne les remplit pas vraiment, un bon pasteur va admettre ses erreurs et ses manquements, puis il ne cherchera pas à les cacher à l'Église. Tous ces prérequis-là peuvent en fait être résumés en un seul, maturité en Christ. Il faut que l'évêque soit mature dans le Seigneur. Brûlons pas les étapes. Mieux vaut une Église bâtie sur les pierres précieuses que cinq Églises bâties sur la paille, les amis. Si l'Église moderne pouvait apprendre juste ça. Plus on va tendre au modèle biblique, plus les Églises vont être saines, fortes, heureuses, bien en santé, puis qu'elles vont être un témoignage puissant dans le monde. On est tellement pressé de fonder des nouvelles Églises pour la gloire de Dieu, entre guillemets. Je me demande pour la gloire de qui, des fois, qu'on fait tout ça. Maintenant, les circonstances ne permettent pas toujours à un homme d'attendre le temps nécessaire pour acquérir ces prérequis-là. À cause, justement, de la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, certaines églises existent déjà, elles n'ont pas de pasteur. Puis, ils en ont besoin d'un tout de suite. Alors, avoir un pasteur qui ne possède pas tous les préalables, c'est peut-être mieux que de ne pas en avoir du tout. Mais ce que je dis, là, je le dis avec une certaine réserve, parce que il y a des jours où je suis pas sûr de ça moi-même. Je suis pas sûr si on serait mieux de ne pas en avoir de pasteur, puis que l'Église apprenne à fonctionner comme ça, qu'en avoir un qui fait souffrir l'Église, puis qui exerce une autorité malsaine. En Tite 1, 5 et 6, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, etc. » Alors, Paul a l'air de dire que s'il n'y en a pas, établis pas personne. On va attendre. Puis, continue à t'occuper toi-même de loin de ces églises-là en attendant, autrement dit. Alors, vous jugerez de ça vous autres-mêmes, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr de ça à 100%. En Romains 12, 8, Paul a dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Le verbe présider se rapporte assez clairement au ministère de pasteur. Mais présider ne veut pas dire être le chef, encore une fois. Le mot grec traduit ici par le verbe présider est proistémie, qui signifie se tenir devant, assister, diriger, donner attention, s'occuper de, veiller à, donner des soins. Le même mot a été employé en 1 Timothée 3:12 en parlant de la direction qu'un père de famille donne à sa famille. Le texte nous dit les anciens doivent diriger, encore une fois, bien diriger leur enfant et leur propre maison. OK, en 1 Corinthiens 4:2 maintenant, Paul a dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit jugé fidèle. » Les dispensateurs à l'époque, c'était des esclaves qui distribuaient aux autres leur ration de nourriture en leur temps. Il n'y a rien dans ce texte-là non plus qui traduit une notion de supériorité ou de sur l'Église. Les pasteurs sont en avant de l'Église, d'accord, mais ne sont pas au-dessus d'elle. Ça, c'est une déformation qu'il y a eu au cours des siècles. En Jean 13, 33, Jésus appelle les disciples mes petits-enfants. Jésus ne parlait pas comme ça parce qu'il était beaucoup plus vieux qu'eux autres, mais parce que ses disciples avaient sûrement au moins le même âge que lui, puis peut-être même plus. Alors, si Jésus les appelait comme ça, c'est parce que l'esprit du ministère de pasteur communique une sollicitude affectueuse, puis un amour semblable à celle qu'un père a envers ses enfants. C'est ça l'esprit du ministère de pasteur, c'est un esprit paternel. Le pasteur puis l'Église doivent avoir une relation de père à enfant, pas une relation de chef à subordonné. Tout le concept de soumission rigide là, qu'on doit supposément aux hommes en poste d'autorité, ça c'est quelque chose qu'on a été chercher dans le monde, les amis, pas dans la Bible. En Matthieu 28, 18, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », c'est-à-dire dans l'Église. En disant « tout pouvoir » ou « toute autorité », c'est la même chose, donc, ça exclut tout le monde d'autre. Ça veut dire qu'aucun homme ne possède vraiment d'autorité en propre dans l'Église. Jésus est le seul qui ait vraiment reçu autorité dans l'Église. À mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, puis qu'on approfondit notre union avec Jésus-Christ, on participe de plus en plus à son autorité. on n'a pas d'autorité. On partage seulement celle de Jésus-Christ. C'est pas pareil, ça. Dieu ne demande pas vraiment aux chrétiens de se soumettre aux hommes qui occupent un poste dans l'Église. Il leur demande de se soumettre à Jésus-Christ, qui est derrière eux autres, dans la même mesure où ceux-ci partagent son autorité, ni plus ni moins. Un leader ne peut pas demander plus de soumission qu'il a d'autorité spirituelle réelle. L'autorité spirituelle, c'est quelque chose de subjectif ou de dépendant de notre expérience personnelle avec Christ, si vous préférez. Par exemple, deux pasteurs, un de 6 ans puis un autre de 30 ans d'expérience, par exemple, occupent peut-être le même ministère, mais ils n'ont sûrement pas la même autorité spirituelle, c'est moi qui vous le dis. Puis là, quand je dis expérience, je ne parle pas d'expérience comme pasteur, mais d'expérience chrétienne. Dieu n'a pas voulu que son Église soit dirigée par des gens en autorité, mais par des gens qui ont de l'autorité. Maintenant, il y a des pasteurs qui ont les deux, le poste puis l'autorité personnelle. C'est merveilleux parce que c'est exactement comme ça que ça devrait fonctionner partout. La parole vivante a traduit Galates 1.1 comme ça. « Paul, apôtre, envoyé non par des hommes, ni par une autorité humaine, mais directement de Jésus-Christ. » Bon, c'est pas le collège des apôtres à Jérusalem qui a choisi, qui a ordonné puis qui a envoyé Paul dans le ministère. C'est Dieu lui-même. C'est sûr, Paul était une exception, là. Dieu s'est occupé de lui personnellement depuis le début. Bon, il n'y a rien de mal à être enseigné, puis à être formé par des hommes de Dieu, à condition que le montre soit à la même heure que celle de Dieu, par exemple. Puis ça, c'est pas toujours évident aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les apôtres à Jérusalem formaient pas un bureau-chef autoritaire qui dirigeait tout le reste de l'Église. Paul fonctionnait de façon tout à fait indépendante d'eux autres. Pourtant, quand il est arrivé à Jérusalem, les apôtres ont reconnu son ministère, puis ils ont vu que cet homme-là avait de l'autorité dans le Seigneur, puis ils l'ont respecté. Ils lui ont donné la main d'association. Ils n'ont pas essayé de l'empêcher de remplir son ministère, au contraire. De toute façon, je pense, même si les apôtres auraient voulu l'en empêcher, je ne pense pas que Paul se serait arrêté pour autant. Si pour des raisons obscures, les apôtres avaient essayé de lui interdire son ministère, je suis persuadé que Paul aurait tout simplement passé par-dessus leur tête, puis qu'il aurait continué quand même. Pourquoi? Parce qu'il savait que son appel, puis que son ministère venait de Dieu. Les pharisiens, eux autres, fonctionnaient à l'intérieur d'un système hiérarchique, c'est assez clair, oui. Certains, bon, c'était le Sanhédrin qui était le bureau-chef, puis qui décidait à la place de Dieu, qui devait avoir l'autorité, puis qui ne devait pas en avoir. Les pharisiens s'arrogeaient l'autorité de régner sur le peuple à la place de Dieu, autrement dit. Les bureaux-chefs, ça ne vient jamais de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui font partie d'un bureau-chef ont des cornes sur la tête et qui sont des démons. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dis que l'institution, la façon de fonctionner, la patente, autrement dit, la machine, ne vient pas de Dieu. Quand le Christ est arrivé et qu'il s'est mis à enseigner le peuple, les pharisiens se sont fâchés, puis ils ont dit, « Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses-là? » En d'autres mots, « Qui d'entre nous autres t'a donné la permission d'enseigner? » Ou ce qui sont tes lettres d'approbation, ce qui sont tes papiers? Si t'en as pas, viens pas marcher sur nos plates-bandes. Mais Jésus n'a pas tenu compte de leurs plates-bandes, parce que dans le Seigneur, il n'y en a pas de plates-bandes. Puis il n'y en a pas de territoire exclusif. Quand t'as de l'autorité spirituelle, t'en as partout, ou t'en as pas nulle part, si t'as pas d'autorité. T'en as pas seulement dans ton église locale. Toutes les églises sont au Seigneur. Tous les croyants aussi. L'église locale n'est pas la propriété du pasteur qui est là. Les gens ne sont pas le bétail du pasteur, mais les brebis du Seigneur. Pierre n'a pas dit aux anciens, « Paissez votre troupeau qui est sous la garde de Dieu, mais paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » C'est pas pareil, ça. OK, reprenons Matthieu 21-23 que j'ai cité brièvement tantôt. Les anciens du peuple vinrent lui dire à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? » Et qui t'a donné cette autorité? Bon, le ministère de Jean-Baptiste, de Jésus, de ses disciples, puis celui de Paul, est la preuve que l'autorité spirituelle de certains hommes qui sont pas en poste est quelquefois plus grande que celle des hommes qui sont placés dans la pyramide hiérarchique. Le gouvernement spirituel des Juifs était devenu une organisation purement contrôlée par les hommes. Le Sanhédrin accordait de l'autorité à qui lui semblait bon. Par exemple, on voit ça en Actes 26-12, en parlant de Saul, ça dit, c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Le Sanhédrin accordait de l'autorité à ceux qui servaient le mieux leur intérêt. C'est ça la vérité. Il aurait bien voulu que Jésus s'intègre, eux autres, dans leur machine hiérarchique, de façon à pouvoir le contrôler lui aussi, mais même si ça lui aurait peut-être ouvert des portes, entre guillemets, là, de devenir pharisien lui-même, notre maître n'a jamais fait ce compromis-là. Pour Jésus, faire la volonté de Dieu, c'était plus important que d'être approuvé par les hommes. Jésus ne s'est pas intégré dans le pharisaïsme. C'est drôle parce qu'il aurait pu très facilement, je pense. L'histoire confirme un principe qui n'a jamais changé. Quand un mouvement donné, dans un mouvement donné, les hommes en poste d'autorité obéissent plus suffisamment à son esprit, à l'esprit de Dieu, à chaque fois Dieu a envoyé des hommes qui venaient de l'extérieur de la machine conventionnelle pour passer par-dessus leur tête, puis apporter la parole de Dieu, puis accomplir son œuvre. On a l'exemple de John Wesley dans l'histoire, qui est sorti d'église anglicane, qui a essayé de faire un réveil à l'intérieur, mais qui n'a pas réussi, il s'est fait mettre dehors, il s'est fait persécuter, alors il en a fait un à l'extérieur. Quand Dieu ne peut pas travailler par en dedans, il travaille par en dehors. C'est triste de voir ça, que l'Église met Jésus-Christ dehors, mais ça arrive. La parole que je vais vous dire là est certaine, puis l'histoire de l'Église en rend aussi le témoignage. Si l'Esprit de Dieu n'est pas libre de parler ou d'agir par ceux qui sont en poste, il va se mettre à le faire par quelqu'un d'autre, souvent même par des simples chrétiens assis dans les bancs de l'Église en arrière. Si Dieu n'est plus libre de travailler avec les instruments qui sont en poste, il va travailler avec des gens qui ne se trouvent pas en poste. C'est aussi simple que ça. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne fait pas exception de personne dans ce domaine-là. L'autorité spirituelle dans l'Église, ce n'est pas un club privé réservé aux gens qui ont fait leur école biblique. M'excuse, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des hommes qui ont de l'autorité spirituelle, puis il y a des hommes qui occupent seulement un poste d'autorité. Puis ces deux formes d'autorité-là ont été en conflit l'une avec l'autre depuis que Dieu a un peuple. Il y a toujours eu, puis il y aura toujours une inimitié naturelle entre la hiérarchie ou l'autorité humaine, si vous préférez, puis l'autorité spirituelle. Tout mouvement qui favorise l'autorité humaine plus que l'autorité spirituelle est destiné à rétrograder tôt ou tard, puis à perdre lentement ce que Dieu lui a donné au départ. L'histoire l'a confirmé à maintes reprises, puis elle va le confirmer encore, je le crains. Dieu, par exemple, agit dans la vie d'un homme, on a vu ça dans l'histoire. Bon, puis un réveil, puis le réveil continue jusqu'à la mort de cet homme-là. Après sa mort, d'autres reprennent les choses en main, puis ils se mettent à l'organiser en établissant un bureau chef, puis une sorte de petit clergé. Puis un siècle plus tard, l'Esprit de Dieu a presque complètement disparu de la boîte. Pas nouveau, ça. Ça se répète encore et encore et encore. Examinez l'histoire des livres eux-mêmes. C'est le même scénario qui se reproduit tout le temps, pratiquement à chaque fois. Ça a été comme ça chez l'Église apostolique, qui est devenue l'Église catholique. Ça a été comme ça avec l'Église anglicane. C'était comme ça avec les méthodistes. C'est arrivé à d'autres, puis c'est en train d'arriver à certaines dénominations qu'on a aujourd'hui aussi, qui vivent encore, mais qui ont perdu beaucoup de ce qu'ils ont reçu, mais qui vont continuer à le perdre parce qu'ils n'ont pas l'intention de rebrousser chemin. Prêcher l'autorité par le poste, là, au lieu d'honorer la véritable autorité spirituelle, c'est marquer le commencement de la ruine de n'importe quelle église, puis de n'importe quel mouvement. Quand on regarde les papiers plus que l'expérience avec Jésus-Christ, c'est le commencement de la fin. En Marc 10, 31, Jésus a dit « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » On comprend mieux ce que Jésus voulait dire après ce qu'on vient d'expliquer là. Ce texte-là nous enseigne deux choses. Premièrement, que Dieu ne reconnaît pas d'autorité à tous ceux qui occupent des postes d'autorité. J'emploie dans son Église, là. Bon, je parle de l'Église au sens large. Jésus est en train de dire qu'il y a des gens qui sont en place puis qui ne devraient simplement pas y être. Plusieurs des premiers seront les derniers au jour du jugement. Bon, deuxièmement, ce texte-là nous dit qu'il y en a qui ont de l'autorité spirituelle mais qui ne remplissent pas de postes reconnus par les hommes, hein? Plusieurs des derniers seront les premiers aux yeux de Dieu. Salomon a dit, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches, spirituellement parlant, sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Ecclésiaste 10, 5 à 7. Toute cette question-là de poste, c'est totalement secondaire aux yeux de Dieu. Même dans une église évangélique, le poste de leadership qu'un homme peut occuper ne lui confère pas automatiquement d'autorité. On l'a dit, je le sais, je le redis encore. Ce n'est pas la position qui fait l'autorité, mais l'appel de Dieu, le don ministère et surtout la maturité. La Bible n'enseigne pas d'être soumis à toute autorité dans l'Église. Tout ça pour la simple raison que ce n'est pas Dieu qui a placé tout le monde en position de leadership dans l'Église. Il y en a qui manquent énormément d'amour pour les gens. Un croyant m'a raconté qu'il avait travaillé pendant une couple d'années pour fonder une œuvre quelque part. Bon, quand ils ont été environ rendus une cinquantaine, là, il y a un pasteur de sa dénomination qui est arrivé sur son grand cheval blanc pour prendre les choses en main. Bon, il y avait ses papiers sur lui, mais il n'y avait pas le don ministère en lui. Il ne savait pas comment prendre les gens, il blessait tout le monde alors qu'il essayait de les exhorter. Bref, il voulait sûrement pas mal faire, là, mais il ne l'avait pas, comme on dit. Résultat, les gens sont tous partis un après l'autre. Puis il a été obligé de fermer les portes. Bon, parce qu'il n'y avait personne de monde pour faire des réunions, c'est triste, ça. C'est arrivé pour vrai. Il a détruit l'Église de ses propres mains, ce type-là. Pourtant, il avait ses papiers, puis il avait fait son école biblique, puis apparemment, il était pasteur, mais aux yeux de Dieu, il ne l'était pas. Paul a dit en 2 Corinthiens 13, 10 que le Seigneur lui avait donné de l'autorité pour l'édification et non pour la destruction. Ce texte sous-entend clairement que l'autorité peut être mal utilisée à un point où elle peut éventuellement même détruire des croyants, une église ou même une dénomination tout entière. J'ai juste une chose à dire. Les papiers qu'on donne en sortant de l'école biblique, c'est bien beau, mais ça ne prouve pas grand-chose. Si tu n'avais pas le don ministère de pasteur dans ton cœur avant d'entrer dans tes études, tu ne l'auras pas plus en sortant. C'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Les positions de leadership, ça devrait être réservé seulement à ceux qui ont déjà prouvé avoir de l'autorité spirituelle avant d'occuper un poste. Dans certaines églises, c'est d'ailleurs exactement comme ça que ça marche. On laisse les chrétiens grandir dans le Seigneur pendant plusieurs années, puis naturellement, il y en a sur qui Dieu dépose son esprit, ça se remarque. Les gens finissent par en rendre témoignage aussi. On les emploie à gauche et à droite parce qu'ils semblent en avoir la capacité. Ils se développent, puis à un moment donné, ils sont mûrs. Quand l'Église a reconnu leur potentiel puis leur maturité, ils les votent, puis ils les mettent en place à l'essai, comme le dit la Bible. Puis après un certain temps, s'ils remplissent convenablement leur ministère, si l'Église est contente d'eux autres, on les établit pour de bon. Si on réalise qu'on s'est trompé plus tard à propos d'un type, bon, il est démis de ses fonctions, simplement, puis on en établit un autre à sa place. C'est ça qui est biblique, les amis. C'est comme ça que ça devrait marcher partout, dans toutes les églises. En Jean 10, 1, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Jésus expose ici la différence entre la vraie autorité puis la fausse autorité, dont s'investissent souvent eux-mêmes les hommes, qui n'en ont pas vraiment reçu de Dieu. Une porte, là, c'est un endroit où les gens entrent naturellement. Hein, on ne passe pas à travers les murs quand on va rentrer quelque part. On rentre par la porte. Bon, comme on l'a dit tantôt, les enfants de Dieu sont portés naturellement à faire confiance aux hommes qui possèdent l'onction de Dieu. Mais ceux qui ne l'ont pas sont obligés de s'imposer puis de forcer un peu le respect puis la soumission. Comme le dit Jésus, les brigands usent de moyens illégaux pour entrer dans la bergerie. Comme s'imposer eux-mêmes. Au lieu de chercher à monter dans la bergerie par des voies humaines, puis nous investir nous-mêmes d'autorité, passons donc par la porte. Laissons Jésus-Christ nous donner lentement lui-même de son autorité. En d'autres mots, prenons le temps de maturer dans le Seigneur, de développer notre don ministère en œuvrant humblement parmi nos frères. C'est comme ça qu'on va gagner le cœur des gens puis l'approbation de Dieu. Notre autorité va devenir réelle. Paul a écrit « Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable », 1 Timothée 3,13. Alors, laissons Dieu nous élever, puis nous établir selon ses propres critères, puis à sa propre manière, puis en son propre temps. Philip Howard Jr. a dit, en parlant de Jonathan Edwards, « Quoi qu'il ait occupé la chaire d'une petite église à New York pendant plusieurs mois, il ne put accepter de poste permanent avant d'avoir étudié pendant encore 6 années après sa graduation au collège. » Remarquant que Jonathan Edwards était comme Jean Calvin qui, après avoir publié son institution chrétienne, ne se considérait pas suffisamment mature pour occuper l'office pastoral, le docteur Samuel Miller ne put résister de faire l'observation suivante. « Mais quand les jeunes hommes infiniment inférieurs à ces grands esprits, apprendront-ils à résister à l'esprit de la présomption et de la superficielle hâte qui les plonge prématurément derrière la chair, et deviennent-ils des fardeaux pour l'Église en devenant des aveugles qui conduisent des aveugles? Ça se passe de commentaires. On sent la conviction du Saint-Esprit derrière ces paroles-là. En tout cas, moi, je la sens, j'espère que vous la sentez aussi. En Juges 4.4, ça dit, « Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. » Un petit verset qu'on peut passer tellement vite dessus, pourtant qui est tellement riche. Ce palmier-là était l'endroit où Déborah remplissait son ministère. Un peu comme la chaire à l'avant de nos églises. A remarqué que c'est pas le palmier qui a donné son nom à Déborah, mais Déborah qui a donné son nom au palmier. Déborah était donc plus grande que le palmier. OK, jusque-là, ça va. Le palmier était évidemment un arbre comme tous les autres arbres. C'est pas le palmier qui faisait que Déborah était une prophétesse, mais l'appel puis le don ministère de prophète qu'elle avait reçu de Dieu. C'est ça qui faisait d'elle un prophète. C'est pas le palmier qui était loin du Saint-Esprit, c'est Déborah. Dieu oint pas des postes, il oint pas des chairs, il oint pas des micros, il oint des hommes, il oint pas des papiers non plus. Bon, de même, c'est pas la chair derrière laquelle on se tient qui nous confère une quelconque autorité dans l'Église, mais c'est l'onction du don ministère que Dieu a placé dans notre vie. Comme ce palmier-là, là, la chair derrière laquelle on enseigne, est elle aussi faite avec du bois tout à fait ordinaire. La chair ne confère pas d'autorité à celui qui se tient derrière. À quoi ça sert une chair, premièrement? Ça sert à y déposer notre Bible, puis un verre d'eau, c'est tout. La question que tout pasteur devrait se poser, c'est la suivante. Est-ce que je donne de l'autorité à ma chair, comme Déborah en donnait à son palmier? Excusez-moi le jeu de mots, mais je trouve qu'il est bon. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. En 2 Chroniques 25, 16, ça dit, « Comme le prophète parlait, Amadia lui dit, le roi, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi voudrais-tu qu'on te frappe? » Dieu venait de donner une grande victoire à Amadia, mais en revenant de la bataille, Amadia sort toutes ses idoles puis les remercie pour la victoire. Imaginez, Dieu lui envoie un prophète de suite pour le reprendre. Oublions pas qu'à cette époque-là, le roi était également le grand chef spirituel du peuple. Le roi Amadia était l'homme en poste. Il avait l'air de croire aussi que son autorité était très loin au-dessus de celle du prophète qui était venu le voir. Ceux qui manquent d'autorité spirituelle cherchent souvent à combler cette lacune en enseignant à leurs gens des préceptes de soumission obligatoire. Mais la puissance ne fait pas le droit, dit le proverbe. C'est Pierre Hébert qui a dit un jour, « Dès le moment où nous forçons notre autorité sur la terre, nous la perdons dans le royaume de Dieu. » Je n'ai rien qu'à amener à dire à ça. En tant que leader, on devrait tous faire preuve d'humilité puis accepter les limites que nous impose notre degré de maturité puis la mesure du don de Christ. En 1 Samuel 18,7, ça dit, « Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, « Saül a frappé 6 000 et David ses 10 000. » Encore une fois, c'est la même chose. Saül avait un poste d'autorité, mais c'est David qui avait la véritable autorité spirituelle devant Dieu. Saül avait la gloire d'occuper le poste. David, lui, avait l'humiliation, mais il avait l'onction. Ce texte-là nous enseigne que l'autorité véritable n'est pas liée à un poste, au poste qu'un homme peut occuper parmi le peuple de Dieu. Il devrait y avoir des hommes reconnus, je suis bien d'accord avec ça, dans l'Église. Mais il ne devrait pas y avoir de hiérarchie charnelle dans l'Église, par exemple. À l'intérieur de plusieurs églises évangéliques, il y a des frères qui soutiennent, qui fortifient, qui encouragent, puis qui veillent sur leurs autres frères. Puis, sans toucher un sou des dîmes puis des offrandes, ils font office de pasteur en réalité, dans certaines mesures. Ces gens-là agissent par amour, puis ça devrait être des modèles pour nous autres. Comprenez-moi bien, il n'y a rien de mal à occuper un poste. Le roi David aussi avait été oint par les hommes, puis avait occupé le trône de Saül. Mais il avait d'abord été oint par Dieu. En psaume 89, 21, Dieu dit en parlant de David, « Je l'ai oint de mon huile sainte. » Bon, les gens qui ont oint David comme roi de Juda, puis plus tard comme roi d'Israël, ont fait juste confirmer la précédente onction de Dieu dans sa vie. Mais les hommes peuvent ordonner 10 fois le même homme comme pasteur si ça leur fait plaisir, mais si Dieu l'a pas oint lui-même d'abord, toutes leurs belles cérémonies d'ordination serviront strictement à rien. Si l'Éternel ne oint un homme, celui qui le oint en vain. Si l'Éternel n'établit un homme dans le ministère, ceux qui l'établissent en vain. Si l'Éternel ne donne l'autorité spirituelle à un homme, celui qui occupe un poste l'occupe en vain. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. En Osée 8:4, ça dit, « Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. » C'est pas tous les rois d'Israël qui ont été mis en poste par la volonté de Dieu. Même si ces rois-là étaient assis sur le trône même de David, c'est toujours pas ça qui leur donnait de l'autorité spirituelle aux yeux de Dieu. Ces hommes-là opéraient en fait une autorité qui était illégale dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a un paquet de leaders dans les églises que Dieu n'a pas vraiment mis en place. Ils sont entrés trop vite dans le ministère. Puis à cause de leur manque de maturité, ils exercent une autorité souvent malsaine pour l'Église, puis c'est souvent à cause d'eux autres qu'il y a des divisions dans l'Église, puis qu'il y a des défections parmi les croyants qui n'auraient jamais dû se produire. Bon, il ne s'agit pas de commencer à faire la chasse aux sorcières, puis à regarder vos pasteurs de travers, puis vous demander si c'est Dieu qui l'a mis là ou non. Si vous voulez faire quelque chose d'intelligent, passez-le à cassette, que vous êtes en train d'écouter, puis laissez-le juger de ça lui-même. Puis nous autres, eh bien, commençons par nous demander si on serait capable de faire mieux qu'eux autres avant de les juger. Paul a encore dit, à quelque part, en 1 Corinthiens 9:19 plus précisément, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » La traduction « Conybeare » dit que Paul était libre de l'autorité de tout homme. Cette traduction traduit ça de cette façon-là. Cette liberté-là conduisait toutefois pas Paul à mépriser les autres. Paul prenait pas un malin plaisir à affirmer frontalement sa liberté à l'égard de ces dites autorités-là, là, comme font les gens rebelles, c'est pas du tout ça. Il voulait seulement dire qu'il se laissait pas imposer n'importe quoi, mais qu'il laissait Dieu être le seul maître de sa conscience. Malgré tout, Paul adoptait généralement une bonne attitude puis un esprit doux. En 1 Thessaloniciens 5:13, Paul nous dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Le texte est clair. On ne doit pas de la considération à ceux qui nous dirigent à cause de leur poste ou de leur position hiérarchique, mais à cause de leur œuvre, dit l'Écriture. C'est-à-dire à cause de leur qualité, de leur service envers l'Église. La dite considération est donc relative à la qualité spirituelle de leur rôle de dirigeant. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Aux yeux de Dieu, un homme vaut ce qu'il vaut. S'il occupe un poste dans l'Église, il n'y a rien de plus. S'il n'en occupe pas, il est rien de moins. Paul nous dit aussi, ayez pour eux beaucoup d'affection. Chaque Église a ses ingrats. Il y en a toujours une couple qui font du trouble pour des niaiseries au leadership. Ils sont jamais contents, puis ils voudraient prendre toutes les décisions à la place du leadership, à la place du pasteur. Ces gens-là sont des épines dans le pied de l'Église, puis ils s'en rendent souvent même pas compte des autres mêmes. Le pasteur a toutes ses épaules, puis eux autres, ils font rien dans l'Église généralement, à part critiquer, puis être un fardeau démoralisant pour les autres à la longue. Il y a des bons pasteurs, j'espère pas avoir donné une image trop négative de ces frères-là. Il y en a qui font preuve d'une véritable patience de martyr, puis de beaucoup d'amour à tolérer les gens charnels qui voudraient tout bosser dans l'Église à leur place. L'œuvre de ces pasteurs dont Paul parle fait référence, à mon avis, à l'œuvre de leur charité à supporter avec patience les plaintes, les querelles, puis les contestations qui leur viennent de la part des gens qui mériteraient même pas d'avoir de pasteur pour s'occuper d'eux autres en réalité. J'ai fait ce message-là pour établir les vrais critères d'autorité chez le leadership. Je n'ai pas fait ce message-là pour encourager ce genre de personnes-là à continuer à pécher contre le leadership, contre les gens qui remplissent dignement leur ministère de pasteur. Moi, je vous avertis, citez-moi pas pour servir vos intérêts charnels, puis mêlez-moi pas à votre péché. J'ai une dernière chose à dire à ces gens-là. Décourager ou faire du trouble à un homme authentiquement appelé au ministère de pasteur, c'est un péché qui est extrêmement grave. Puis c'est un péché qui va vous retomber sur le nez un jour, doutez-en pas une seconde. Alors que ce soit l'Église qui trouble un homme de Dieu, ou que ce soit un leader qui trouble l'Église, il s'agit de péchés très sérieux. Paul a écrit, « Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera lui-même la peine. En conclusion, laissez-moi répéter encore une fois que l'autorité spirituelle ne dépend pas du poste qu'on occupe, mais de qui on est dans le Seigneur. Ce sont les postes qui devraient dépendre de l'autorité qu'on a dans l'Église, et pas le contraire. J'espère seulement que je n'ai pas trop donné l'impression que je pointais mon doigt uniquement vers les pasteurs, parce que je crois sincèrement que les problèmes de l'Église moderne sont souvent des problèmes dont on est tous responsables dans le fond. Prenons à cœur de rétablir les vrais principes de l'autorité dans l'Église, puis visons à acquérir le plus de maturité possible en tant que chrétien. C'est comme ça que Jésus-Christ va être glorifié. Amen.